Bonjour, un numéro de Lab Oratoire aujourd'hui consacré à la culture du houblon et à la fabrication de la bière. En compagnie de Valentin Beauvalet et de Joris Moquet, la force de frappe de cette émission, avec la complicité de Yann Le Tailleron, l'homme des manettes, et de Raphaël Guédard des Écosolis, je reçois Mathieu Cosson, agriculteur bio qui cultive du houblon, Samuel et Fabien Marzelière, les créateurs de la future brasserie houblonnière solidaire qui portera le nom de Tête Haute, Nicolas Auvinet, brasseur et organisateur d'ateliers brassage. Comme il fallait trouver un titre à cette émission, nous avons unilatéralement opté pour la première cuvée de bière. On va s'intéresser maintenant au projet La Brasserie La Hulotte avec Nicolas Auvinet.
L'activité principale de La Brasserie La Hulotte, effectivement, c'est d'inviter le grand public à venir fabriquer sa propre bière. Mais je suis aussi à côté brasseur, je produis et je vends de la bière.
Ces deux activités, c'est pour consolider un petit peu votre bilan comptable.
Exactement. Le but, c'est de trouver un équilibre financier entre la partie atelier et la partie production, qui, à terme, va peut-être diminuer au niveau de la quantité, contrairement à mes voisins qui vont augmenter leur production. Moi, l'idée, c'est plutôt de faire des petits brassins. Donc moi, je fais des brassins de 2 hectos. Il parlait tout à l'heure de milliers d'hectos. Et moi, c'est plutôt de faire des petits produits typés avec une amertume forte, par exemple, des styles un peu oubliés ou voilà, faire des petites séries limitées pour inviter les gens à découvrir des nouveaux goûts, en fait, tout simplement.
On aime s'intéresser au parcours antérieur. Qu'est-ce que vous exerciez comme profession?
Pour moi, c'est une reconversion professionnelle comme énormément de brasseurs, puisqu'il faut savoir que le diplôme de brasseur a été oublié. En fait, c'est même plus considéré comme artisan, on ne peut pas passer un CAP brasseur. Donc dans mon cas, c'est une reconversion professionnelle. Avant, je travaillais dans une SCOP, à Scopic, qui est une entreprise d'événements et de communication que j'ai montée avec deux associés à la base. Et puis, j'ai voulu changer de métier. Donc j'ai pu faire un congé individuel de formation et j'ai été me former à une école à Nancy qui s'appelle l'IFBM.
Vous étiez un grand amateur de bière.
Je pense que le point en commun de tous les brasseurs, c'est d'aimer la bière. Sinon, ça sert à rien de faire ça. Donc oui, j'aimais boire de la bière, mais plus que ça, comme beaucoup, j'étais brasseur amateur depuis 3 ou 4 ans. Je brassais chez moi, donc c'est une activité entièrement légale. J'invite les gens à brasser chez eux, c'est plutôt sympathique. Le but, c'était de développer cette activité-là et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de lieu pour apprendre à brasser ou pour acheter des matières premières. Comme on a beaucoup parlé du houblon, mais on n'a pas parlé du malt. Donc voilà, il manquait un lieu, à mon avis, dans le Grand Ouest. Donc voilà, c'est fait.
Qui s'adresse à vous dans le cadre des ateliers?
Moi, en fait, j'ai deux types de clients. J'ai les particuliers et les entreprises. Les particuliers, en fait, je me rends compte, par exemple, en ce moment, que les gens de Saint-Nazaire et de Rennes aiment beaucoup venir fabriquer de la bière. Je ne sais pas tellement pourquoi. Sinon, c'est pour les entreprises, pour des groupes d'une vingtaine de personnes, venir fabriquer de la bière aux couleurs de l'entreprise.
Ça se passe comment?
Donc, en fait, il y a deux formules en fonction de ce qu'on choisit, 2 heures ou 4 heures, et on vient les mains dans les poches et, en fait, on va commencer vraiment du grain et je vous explique toute l'histoire de la bière, d'où ça vient, voilà, et vous choisissez une recette et ensuite on fabrique la bière ensemble et le but c'est de revenir un mois après pour faire l'embouteillage de sa propre bière.
Et quand vous dites que tout le monde pourrait brasser chez lui?
Donc en fait, il faut aller sur internet, acheter des petits kits pour une cinquantaine ou 50 ou 100 euros, on peut commencer à brasser chez soi.
On peut fabriquer sa propre bière à son propre goût.
C'est comme pour la cuisine. On ne commence pas par inventer un plat, on commence par faire des plats existants. Donc moi, je propose une dizaine de recettes, en fait, qui va de l'ambrée belge, la bière de blé, etc., ou des bières un peu plus typées, comme l'American Pale Ale, où il y a plus d'amertume. Enfin voilà, j'essaie de proposer à peu près tous les styles. Après, j'ai des brasseurs amateurs qui viennent brasser chez moi, qui ont une idée en tête de vraiment leur recette, et ils utilisent le matériel et les matières premières sur place pour fabriquer leur propre bière.
On fabrique combien de quantités?
Pour la formule de 2 heures, on repart avec 12 bouteilles de 75
cents. Ouais.
Et puis la formule de 4 heures, à peu près le double.
Et ça se conserve? On doit la boire dans le bois.
Ça fait partie des questions qui sont souvent posées. En fait, il faut distinguer les bières maltées des bières houblonnées. Les bières où il y a vraiment un goût de houblon, au bout de 6 mois, les arômes vont avoir tendance à descendre. Donc les bières houblonnées, il faut les boire assez vite. Tandis que les bières maltées, plus fortes en alcool, elles vont pouvoir se conserver plus facilement.
Vous êtes combien?
Je suis à peu près tout seul.
Tout seul, pour à la fois produire de la bière et animer les ateliers.
Exactement, c'est ça.
Et vous comptez rester tout seul?
En fait, moi non, à la base j'ai un esprit coopératif. Je l'ai monté tout seul, puisque déjà il faut réussir à tenir un poste. Mais si à terme je peux le transformer en coopérative et si on peut être plusieurs associés, moi ça m'intéresse forcément.
vos céréales, vous les achetez où ?
Alors voilà, ça c'est une question intéressante, parce qu'on a parlé du houblon.
Ah, jusqu'à présent, ce n'était pas intéressant.
Non, mais c'est vrai que c'est une problématique dans la brasserie artisanale, c'est qu'on essaie de boire local, on essaye toujours de prendre des matières premières qui viennent de juste à côté de chez nous. Et ben, il faut savoir que le malt, on peut difficilement le trouver en local. Donc moi, en fait, ça vient, j'en ai une partie. Donc moi, je privilégie le bio tout le temps. Et ensuite, quand c'est possible, bio et français, je prends. Donc j'ai une partie qui vient de l'est de la France, de Soufflet, mais j'ai une autre partie qui vient aussi de la malterie du Château en Belgique et Weyermann en Allemagne. Je fais avec les différentes possibilités, mais si on pouvait consommer local jusqu'au bout, je suis preneur, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment d'offre.
Mais vous êtes preneur jusqu'à quel prix de vente ?
En fait, moi, le but, c'est de faire des ateliers. Donc, moi, je ne suis pas sur un pourcentage de production et d'efficacité à tout prix. Moi, je suis surtout...
Non, mais de produits de vente par rapport aux céréales, je veux dire. Mathieu disait qu'il était plus cher.
Voilà, donc, moi, c'est ce que j'expliquais. Moi, mon but, ce n'est pas de rechercher de la rentabilité, d'extraire le maximum du grain et du houblon. Moi, mon but, c'est que les gens passent un bon moment. Donc, moi, je peux acheter les céréales ou le houblon le double de son prix si c'est fait à côté et bien fait.
Et le triple ?
Ça dépend.
Non, parce que ça peut donner des idées à Mathieu.
Moi, je trouve ça super intéressant ce que dit Nicolas. J'ai déjà eu plein de discussions comme ça avec les brasseurs. C'est vrai que moi, je vais être... Enfin, je sais pas, les gars, vous me direz, mais le prix du houblon actuellement, de ce que je vois, je vois les prix les moins chers, c'est 9 euros du kilo, par exemple. Et je vais voir des prix jusqu'à 70 euros du kilo pour des houblons rares. Principalement des choses qui sont achetées aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande. Hein. Grosso modo, le marché, c'est ça. Après, un peu en Allemagne quand même, et puis un peu en France. Moi, je vais être à des prix beaucoup plus intéressants, enfin beaucoup plus chers, mais intéressants. Quand je vais voir les brasseurs, c'est pas forcément la question qui me pose en premier, en fait, quoi. Moi, ils mettent plutôt le taquet sur la qualité plutôt que sur le prix. Par contre, mon gros boulot à moi, c'est de revenir sur un produit qui est lié au producteur. C'est-à-dire que quand le brasseur, en fait, lui, il reçoit, parce que le brasseur, vous me direz quand même, lui, il fait ses courses, hein, il dit, voilà, je veux telle variété de houblon, il reçoit son petit sac, là, et voilà, il met ça dans sa bière et terminé. Moi, je veux que le brasseur, en fait, quand il ouvre son sac, il est mon champ, et il est le producteur, il est le temps que j'ai passé, il est la sœur du houblonnier, qui, voilà. Et je veux reprendre tout ça, et ça, c'est super important, parce que quand on a un brasseur qui ouvre un houblon, on va dire, qui est aromatique, qui vient de Nouvelle-Zélande, qui vient d'acheter 9 euros le kilo, et il a acheté un super houblon rare qui vient des États-Unis à 50 euros le kilo, un truc qui va faire un amérisant hyper intéressant, machin. En fait, quand je leur pose la question, bah, vous pourrez y répondre. Je dis, bah, est-ce que vous savez quelle différence il y a au niveau de la culture, quoi ? Bah non. Bah, en fait, c'est la même. C'est exactement la même culture. En fait, c'est la même production. C'est les mêmes plants. C'est les mêmes variétés, quoi. Après, il y a un marché. Bon, après, moi, je pourrais jamais répondre à toute la demande, mais il y a un marché. Bon, après, est-ce qu'il faut vraiment toujours être sur des marchés ou est-ce que, comme dit Nicolas, il faut voir avec du local ? Soit l'idée, c'est de le payer peut-être un peu plus cher, parce que j'aurais plus de charges. L'idée, c'est pas forcément de le faire payer plus cher juste pour le plaisir, mais parce que derrière, il y a un travail d'une personne avec beaucoup de charges, avec en plus une petite exploitation. Mais voilà, moi, on va dire mon gros job, ça va être ça, quoi. Surtout de refaire la connexion entre le brasseur et le producteur de houblon, quoi. Et pour le malt, enfin, mon sens de ce que j'entends dire, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, on peut produire facilement de l'orge. Ça, c'est, je veux dire, n'importe quel paysan peut faire ça. La grosse difficulté, c'est de le malter et d'avoir assez de quantité pour pouvoir le malter. Là, il y a l'Oréso en Bretagne qui est en train de pas mal émerger là-dessus. Bon, après, il y a des malteries qui existent en Ardèche où il y en a d'autres à droite à gauche. Il y a un gros boulot à faire là-dessus, quoi.
Il me semble qu'en Bretagne, il y a quand même une initiative intéressante de la terre à la bière. Il me semble une association qui regroupe des producteurs d'orge et avec une malterie aussi. Mais voilà, après, c'est au niveau des quantités. C'est vrai qu'il y a beaucoup de brasseries à fournir et ça peut être compliqué de se fournir parfois en local.
Mais à la fois les quantités et conventionnelles et bio. Voilà, c'est-à-dire que globalement, le conventionnel est beaucoup plus important que le bio et tu peux pas mélanger les mêmes sur les circuits. Donc il faut avoir deux entités différentes.
Et puis il y a un autre produit qui doit être de qualité, c'est l'eau. Si on n'a pas de la bonne eau, on ne fait pas de la bonne bière.
Tout à fait.
Vous la cherchez où, votre eau ?
Alors l'eau, il y a deux écoles. Il y a les brasseries qui disent qu'elles pompent leur eau dans des sources bien protégées et que personne d'autre ne peut pomper. Et puis il y a la plupart des brasseries qui prennent l'eau du réseau. Alors l'eau, c'est très particulier hein, parce qu'elle va rentrer à 90% dans la chimie et dans la magie d'une recette de bière. Il faut savoir que tous les éléments qui sont dans l'eau vont avoir un rôle à jouer dans la transformation enzymatique, dans les sucres, dans ce qu'il va falloir extraire du malt et du houblon. Et parfois une eau la plus pure possible, je pense à une eau par exemple, une eau de glacier ou quelque chose comme ça, ça peut être un bon argument de vente. C'est pas forcément un bon argument au niveau, niveau chimique, parce qu'il va manquer beaucoup d'éléments dans ces eaux-là. Et parfois les eaux du réseau sont de très bonne qualité pour le brassage aussi. Donc là, ce qui est important pour un brasseur, c'est de bien analyser son eau de réseau, s'il est branché sur le réseau, et puis de vraiment travailler sa recette en fonction de son eau. Et pas voilà, d'essayer de pallier avec beaucoup d'ajouts de chimiques, de produits. On peut vraiment travailler la recette en fonction de son eau et avoir des résultats très satisfaisants.
Pour lancer la chronique de Joris, c'est sa première aujourd'hui, on va le saluer. Je vais juste faire, alors, vous me répondez rapidement, je fais un tour de table. Quelle est votre bière préférée, Raphaël? Vite, vite, vite.
Oh là, tu me prends de court. La bière de mon voisin.
La bière du voisin.
Pas Mathieu, mais mon vrai voisin chez moi, il en fait chez lui dans sa baignoire.
Moi, j'aime bien une bière blonde qui pique et qui est très bonne.
Camille, notre surprise.
Je sais pas si c'est ma bière préférée, mais je suis nouvelle à Nantes et j'ai découvert la brasserie de Charlotte.
Moi, je pense que la meilleure bière, c'est celle qu'on fait soi-même.
Oh, j'adore ce point de vue. Moi, j'aime beaucoup les bières vraiment typées sèches, où on sent beaucoup le céréal, avec légèrement le houblon qui relève le tout.
Moi, je serais plus sur une bière ambrée, bien typée, assez céréalière aussi, mais un petit peu gourmande en bouche. Type des, voilà, ambrés d'hiver, voilà.
Joris, est-ce que c'est une indication sur notre futur président de la République?
Alors, malheureusement, non.
Ah,
je vais
bon,
vous expliquer.
Pensais...
J'ai voulu voir, les élections de 2017 approchant, si on pouvait lire l'avenir dans la bière. Alors, ça peut paraître une drôle d'idée, je m'explique. En regardant une étude de l'IFOP commandée par les Brasseurs de France, je suis tombé sur des données un peu particulières. La consommation de bière selon la proximité avec les partis politiques. Quelle drôle d'idée de sortir ces données. Alors, il faut savoir que l'étude, elle date de novembre 2012, soit quelques mois après les élections présidentielles. N'étant pas un candidat en campagne et l'honnêteté intellectuelle me commandant de ne pas le faire, je peux malheureusement pas inventer des chiffres plus récents, comme ça dans le but de rendre ma petite chronique plus actuelle et attrayante. Autant vous dire que j'attends impatiemment les résultats de 2017. Alors, à votre avis, les sympathisants de quel parti étaient le plus consommateurs de bière? Juste comme ça, rapidement.
Moi, je dirais les écolos.
Les écolos. Eh bien,
on va voir ça. Le président de la République qui aimait bien une certaine
Chirac.
Bière.
C'est vrai. Alors, on va voir ça en trois catégories. Donc, la première catégorie, on va commencer par ceux, justement, les grands perdants, ceux qui apprécient le moins la bière. Eh bien, à la surprise générale, on retrouve deux partis un peu opposés et ex-éco, Europe Écologie Les Verts, dont 31% des sympathisants disent ne jamais boire de bière, et l'UMP, ce qui leur fait au moins un point commun.
Enfin, les Républicains, enfin l'UMP de l'époque.
Désormais, les Républicains, effectivement. Alors ensuite, si on rentre dans la deuxième catégorie, ceux dont le taux de sympathisants consommateurs, réguliers ou non, interviewés, est le plus élevé, alors sur le podium, on retrouve le Front National, avec un score de 73% de sympathisants amateurs de bière, dont 97% apprécient la diversité de saveurs de bière. Et 97% apprécient la diversité de saveurs de bière, ce qui est une belle preuve d'ouverture d'esprit. Loin devant, alors il y a un duel de géants au niveau des consommateurs de bière avec deux parties qui sont vraiment largement au-dessus des autres en termes de consommateurs. On retrouve sur la deuxième marche du podium avec 83% d'individus se revendiquant consommateurs de bière, le Front de Gauche, sans doute bien aidé par la fête de l'UMA. Et avec 88% de consommateurs de bière, la grande buvette des partis, eh bien c'est l'UDI, le parti créé par Jean-Louis Borloo, ce qui rend la surprise un peu moins surprenante finalement.
Oh, on n'est pas obligé de suivre les commentaires usuels des autres médias.
N'est-ce pas? Alors, on remarque aussi dans cette étude qu'on a la fréquence de la consommation selon le parti et qu'à ce niveau-là, donc l'UDI est toujours en tête, mais que le Front National se retrouve juste derrière avec 7% de consommateurs quotidiens de bière. Et si je dois en conclure quelque chose, c'est que ça ne sert à rien de chercher les résultats de la prochaine élection dans la bière. Mais qu'en revanche, peu importe l'horizon politique, tous s'accordent à dire que la bière est conviviale, qu'on la partage, qu'elle plaît autant aux jeunes qu'aux plus anciens, autant aux hommes qu'aux femmes. La bière, c'est une boisson qui rassemble, qui dépasse les différences, et c'est peut-être le candidat le plus légitime pour 2017.
Merci Joris pour cette première, pas mal hein.
Bravo.
Ce numéro de Lab Oratoire, magazine de l'économie sociale et solidaire, est consacré à la culture du houblon et à la fabrication de la bière. C'est d'abord votre passion qui fait que vous avez choisi votre aventure professionnelle ou c'est l'inverse, c'est l'aventure professionnelle qui après débouche sur une passion?
C'est un mix de tout, l'envie, la passion, la quarantaine arrivant, on va dire que c'est la crise de la quarantaine. Non voilà, c'est avant tout un métier de passion, un métier de retour, mettre les mains dans la terre et produire un vrai produit. Puis aussi moi j'ai besoin d'échanger, de discuter, puis le fait de la relation on va dire sociale avec les brasseurs. Moi, un mix de tout ça, ça me va bien quoi, en fait. Quoi.
Mais ça aurait pu être dans le vignoble, non?
Ouais, non, c'était moins mon truc quoi. Là, le houblon, ça me fait. Voilà, il y a un côté un peu maso, nouveau projet qui m'a toujours fait marrer dans les projets que j'ai lancés. Donc c'était un truc qui se faisait pas et je me suis dit pourquoi pas le faire quoi, en fait.
Nicolas?
Pour moi, c'était une opportunité. C'était à la fois une passion et puis je me suis rendu compte qu'il manquait une partie, c'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus de brasseries, mais que finalement, il manquait la partie pédagogie et faire soi-même. Et donc, en fait, j'ai saisi cette occasion.
Puis c'est bien, ça peut motiver des futurs concurrents.
En fait, c'est plus de sensibiliser, les consommateurs. En fait, c'est d'essayer de promouvoir le boire moins mais boire mieux. En fait, d'expliquer qu'est-ce qui différencie une bière artisanale d'une bière industrielle, etc. Moi, c'est cette partie qui m'intéresse le plus.
Fabien ou Samuel, vous, c'est le projet d'insertion?
C'est à la croisée des deux aussi. On avait vraiment une envie de participer depuis longtemps à cette grande aventure qu'est la restructuration de la bière artisanale en France. On a vraiment envie d'y participer à notre manière et puis d'amener notre petite touche aussi avec le projet d'insertion qui donne une autre coloration à ce projet-là.
Ce sont des emplois qui sont aidés?
Il y a une aide de l'État pour chaque poste qui s'élève à hauteur de 10 100 et quelques euros. Une aide qui vient compenser le temps passé avec la personne sur l'accompagnement social et puis la mise à disposition de la personne aussi en stage à l'extérieur, etc.
Quand j'évoquais au début l'histoire des brasseries nantaises qui au cours du temps ont fusionné entre elles et qu'après ça s'est effondré et qu'on voit aujourd'hui qu'on repart dans des projets de micro-brasserie, ça vous inspire quoi? Comme l'idée que c'est un cycle et qu'on commence petit, on fusionne, on s'écroule et on recommence petit, on fusionne, on s'écroule?
C'est marrant parce qu'on en parlait juste avant de faire l'émission, on est presque plus sur la résilience du milieu, c'est-à-dire qu'au départ il y avait plein de petites brasseries, de petites unités, puis tout a disparu dans les années 30.
Enfin, ils ont fusionné.
Voilà, mais on y revient un peu aujourd'hui et on rescinde un peu tous ces éléments-là et puis il y a de la création et c'est ce qui permet d'apporter toute la richesse. On parlait tout à l'heure de l'association des brasseurs de France. Elle va être à 65% tenue par les grands industriels et puis 35% qui sont clairement en minorité. Et donc aujourd'hui, les brasseurs plutôt artisanaux sont sortis de l'association des brasseurs de France pour eux mettre en place les associations, les brasseurs indépendants. Voilà. Donc il y a vraiment deux mouvements aujourd'hui là qui se mettent en place.
Mathieu, vous êtes situé sur le territoire de Bourgneuf-en-Ré, qui s'appelle, je ne sais plus comment maintenant...
Villeneuve-en-Ré.
Voilà, c'est ça.
Le Pays de Ré.
Le Pays de Ré, donc en plein Pays de Ré.
Exactement.
Vous acceptez quelle monnaie?
J'accepte surtout les euros, mais avec bientôt, j'espère, une monnaie locale en Pays de Ré que je pourrais accepter, évidemment, puisqu'elle existe.
Habituellement, nous consacrons les dernières minutes de l'émission à un projet émergent. Et puis là, il se trouve qu'on a recroisé Camille Valentin.
Camille, qu'on avait déjà vu en fait pendant le mois de l'ESS et qui nous avait présenté le réel et qui nous avait dit, si je me souviens bien, qu'il allait y avoir des évolutions entre le réel et je ne sais plus le nom de la monnaie, le héron, je crois.
Et roseau.
Le roseau, voilà. Ce n'est pas le héron, c'est le roseau, à Saint-Nazaire et que vous alliez vous rapprocher l'une de l'autre. Alors où en êtes-vous maintenant?
Ça y est, c'est signé. Le roseau, donc la monnaie de Saint-Nazaire et de la presqu'île de Guérande, a été créée en avril 2016. Et comme les territoires étaient assez proches, très vite, on a eu l'idée de simplifier les échanges. Donc on a signé une convention en novembre. Et là, depuis le 1er janvier, on peut, en tant qu'adhérent du réel, aller sur le territoire du roseau et payer en réel. Ce qui évite d'adhérer aux deux associations et de devoir avoir trop de billets, trop de monnaies différentes dans son porte-monnaie. Voilà, donc je paye par exemple moi en réel à Saint-Nazaire et après c'est les deux associations qui font leur compte pour équilibrer tout ça.
Merci à Mathieu Cosson du Champ de Houblon, Samuel et Fabien Marzelière de Tête Haute, Nicolas Auvinet de la brasserie La Hulotte, Camille Bonfils de la monnaie locale Le Réel, pour leur libre participation à ce numéro de Lab Oratoire, consacré à la culture du houblon et à la fabrication de la bière, numéro réalisé avec les complicités de Valentin Beauvalet, Joris Moquet, Raphaël Guédard et Yann Le Taéron. On rappelle juste le principe d'une monnaie locale.
Monnaie locale, donc qui s'échange sur un territoire défini. Donc là, le réel, c'est sud de Nantes, sud de Loire, Pays de Ré, donc jusqu'à Bourgneuf, justement. C'est voilà, valoriser les échanges locaux quand c'est possible, et voilà, pour une économie non spéculative également.
Il faut préciser pour Mathieu que les producteurs, les commerçants peuvent échanger leur réel en euros, pas les clients, pas les consommateurs.
Les échanges en monnaie locale se font entre les particuliers et professionnels, entre professionnels entre eux, et voilà.
Et cette monnaie locale était présente
sur notre marché
au mois de décembre. Et alors le bilan, c'était plus pour faire connaître cette monnaie ou ça circulait aussi
C'était à la fois pour faire connaître la monnaie, pour permettre aussi à 6 professionnels de cette monnaie d'être présents sur l'autre marché, à travers cette coopération, de mutualiser les moyens et d'avoir un chalet, parce que c'était surtout des entreprises individuelles. Et ça a permis, avec des temps de présence partagés, de mutualiser les moyens et d'être plus visible.
Mathieu, Samuel ou Nicolas, ça vous tenterait d'avoir un circuit qui soit court avec une monnaie locale ?
Alors moi j'accepte déjà la sonnante, l'équivalent de la monnaie complémentaire nantaise, et l'idée des fusions entre territoires proches, je trouve que c'est une très bonne idée puisque ça étend un petit peu les possibilités.
Mais d'ailleurs, si on a encore une minute, on pourra payer en sonnante et en monnaie locale dans un nouveau projet, une nouvelle initiative locale en cours qui est Scopelli, donc supermarché participatif et coopératif en cours de création. Et justement, en ce moment, il y a une campagne de financement participatif sur la plateforme Zest. Et on peut bénéficier d'un atelier de création de bière actuellement, si je ne me trompe pas, c'est bien avec la Hulotte. Voilà, c'est une des contreparties du supermarché, de faire sa propre bière. Parce que c'est l'idée de Scopelli, c'est coopératif, mais aussi participatif. On met la main à la pâte, on va dire, en travaillant 3 heures par mois. Dans ce supermarché, en faisant sa vacation, on permet de baisser les prix de 15 à 30% du supermarché tout en mangeant bien et localement.
Ça coûte combien un stage chez vous ?
En fait, il y a les deux formules, mais ça commence à 90 euros et on peut brasser à 2 pour le même prix.
Et on ne brasse pas de l'air.
Ouais. Pardon ?
On ne brasse pas de l'air.
Non, voilà.
Il ne reste plus qu'une petite minute, Valentin. On remercie nos invités.
Oui, avec quand même, on peut préciser, une actualité pour la Hulotte aussi, bientôt à Trampolino. J'ai vu ça, alors c'est quel jour ?
Je ne sais plus.
Voilà, donc bientôt, il faut aller sur le site de Trampolino et activité bière DJ, je crois.
Exactement. En fait, le but, c'est que ma bière, elle est commercialisée pour l'instant qu'à la brasserie La Hulotte. Et c'était une proposition de Trampo de pouvoir venir goûter la bière de La Hulotte chez eux. Donc voilà, c'est début février.